sur Radio Alliance Plus.
Maman, qu'est-ce qu'elle a, la dame ?
Parler du handicap avec les Achilles sans talons.
J'ai envie de l'aider, maman, cette dame.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Radio Alliance Plus, sur le 103.2. Je m'appelle Stéphanie et vous êtes en train d'écouter mon émission « Les Achilles sans talons », portant sur le regard et l'acceptation des personnes en situation de handicap dans la société. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Ce sujet, donc, c'est parler des interventions des Achilles sans talons en milieu scolaire. Et en fait, aujourd'hui, mon invitée, c'est Christelle Fiol. Elle est artiste-peintre, auteure et enseignante spécialisée en SECPA pour le collège Lou Castellas à Marguerite. Est-ce que tu veux bien nous dire deux, trois mots te concernant, Christelle ?
Mais tout d'abord, bonjour. Merci Stéphanie de me recevoir. Merci à Umbine également. Moi, je suis donc artiste peintre depuis de nombreuses années. Je suis également auteur et je travaille dans la transmission de nos savoirs, en art plastique, en français, toutes sortes de disciplines, puisque je suis professeure des écoles spécialisées. Et j'adore mon métier, je suis passionnée et ça fait quelques années que je fais ça dans ce collège avec des élèves en situation de handicap. Et c'est un milieu vraiment qui me passionne.
Eh bien, écoute, super. Alors, je vais te poser quelques questions, parce que c'est aussi le but un peu de voir quelle est ta vision des choses par rapport justement aux interventions qui ont eu lieu au collège l'année dernière, déjà, parce que le temps s'écoule très, très vite.
Oui.
Quand je te parle de handicap, spontanément, qu'est-ce qui te vient ?
Alors, moi, lorsque j'entends le mot handicap, tout de suite, j'ai un mot qui me vient, c'est partage. Pourquoi partage ? Parce que je me dis qu'en fait, on est tous unis, tous dans la même embarcation, j'ai envie de dire, et qu'on est en lien. Et le partage de l'handicap, c'est pas vraiment quelque chose qui me gêne. Travaillant avec des élèves en situation de handicap, précisément, je me dis que on n'a pas besoin de faire des différences, et on est là tous dans le même bateau, et on s'élève les uns les autres.
C'est
voilà.
Super. Un très beau regard sur le handicap qui a souvent tendance à être un peu trop cloisonné à mon goût.
Stigmatisé, ce n'est pas tellement ce qu'il faut faire. Et on essaie souvent d'aider et on tombe dans cet écueil, c'est on stigmatise en fait. Et on est différent.
Exactement.
Il y a des différences certes, mais ces différences, on en fait une force en réalité. Et quand on est tous ensemble... On peut, cette émulsion, cette synergie permet justement d'avancer tous ensemble.
Bien entendu. Quel impact tu penses que ça a eu, ces interventions-là, sur les jeunes, sur les étudiants ? Est-ce qu'il y a un avant, un après ?
Ah oui, littéralement, il y a véritablement un avant et un après, puisque donc tu es intervenu avec Aro dans ces classes, les quatre classes, la sixième à la troisième. Et c'est vrai que les gamins, les élèves, quand ils vous ont vu arriver, ils étaient très enthousiastes et très touchés par ton histoire, très touchés par cette force que tu transmets, cette détermination. Et moi, j'étais vraiment enthousiaste De vous recevoir. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, à te voir faire avec les jeunes. Ça a un impact tous azimuts, j'ai envie de dire, en termes de savoir-être. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient être en grande difficulté, mais qui savaient rebondir. Et souvent, comme eux, on les stigmatise aussi. On dit « oui, tu es en difficulté, tu ne vas pas y... » Ils se disent « ah, mais finalement, je ne suis pas le seul. » et puis une personne qui a un handicap physique et qui bouge, et qui va à droite, qui va à gauche, et qui intervient dans les écoles, ça leur a donné vraiment, ça leur a permis de se sentir mieux compris, j'imagine. Et puis il y a eu véritablement un avant et un après. Moi j'ai pu, puis c'est plaisant pour moi parce que j'ai pu vraiment rebondir sur ces interventions-là. On a pu en parler, donc il y a eu non seulement donc un impact sur les savoir-être, mais également sur les savoir-faire. C'est-à-dire qu'après, on a utilisé ces interventions en français.
Oui, forcément.
Voilà. On va dire, on va écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intervention de Stéphanie? Alors, il y a eu beaucoup d'empathie, beaucoup de « waouh » et puis d'admiration aussi. Mais elle est très forte, elle est trop forte, madame, comment elle fait et tout, c'est génial. Et le fait de leur montrer aussi ton quotidien.
Oui.
Et ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'on ouvre... On ouvre les élèves un petit peu à d'autres choses. On n'est pas dans les savoirs savants, on est dans la vie et dans le quotidien, en fait. C'est ça qui est formidable.
L'esprit, voilà. C'est super. Et toi, en tant que enseignante, qu'est-ce que tu as pensé de ces interventions-là? Et surtout, j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais même me donner des conseils que je prendrais avec grand plaisir pour améliorer ces interventions? Parce que moi, je ne suis pas enseignante, donc...
Déjà, il faut arrêter avec ces histoires. Je ne suis pas enseignante. On est tous des enseignants, parce que déjà, on est parents aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est
on transmet.
Vrai. C'est vrai.
Et je pense que c'est le fait d'être tous ensemble, de travailler en corrélation les uns avec les autres. Moi, je suis enseignante, évidemment, c'est mon métier, c'est mon dada. Mais lorsque tu es intervenue, vraiment, je le répète, ça a été vraiment... une expérience humaine merveilleuse, parce que là, en plus, je me suis mise en retrait. C'est très bien, je suis toujours en avant, moi, toujours en train de parler. Donc, à un moment donné, c'est bien que je me mette en retrait. Et j'ai vu les élèves, comment ils réagissaient. Et moi, j'étais aussi en tant qu'élève.
Oui.
Parce que tout ça, c'est de l'apprentissage. Le fait de dire aux élèves, voilà, vous avez quelqu'un qui vous apporte son expérience, c'est un enseignement aussi.
Bien entendu.
Voilà. Et donc, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, si ce n'est, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir?
Ah oui, avec joie, mais vraiment avec grand plaisir.
Et comme on le disait précédemment, si tu pouvais revenir aussi, parce que les élèves me le réclament, me disent, madame, quand est-ce qu'elle va revenir? Et je pense que c'est bien de revenir. Déjà, tu as planté des petites graines qui sont en train de germer.
C'est bien ça.
Et ces petites graines, il faut les arroser un petit peu.
Et oui, tout à fait.
Voilà. Donc, je t'attends avec impatience.
D'accord. Et donc, tu as pu remarquer des changements positifs.
Ah oui, c'est plus que positif. On est vraiment dans la dimension humaine, au-delà des apprentissages. Là, comme je dis souvent, les compétences, les apprentissages précis. On apprend à être des êtres humains.
C'est trop beau.
À
c'est
parfaitement un peu notre bien prochain, dit. Il me semble, hein, mais je sais pas.
Ok. Et une question qui a un peu, qui va dévier un peu. Est-ce que comment tu penses qu'on pourrait favoriser l'inclusion à l'école?
Alors le premier mot qui me vient en tête, c'est la relation. Parce qu'on a des techniques, on sait que pour inclure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Par expérience, ma petite expérience, presque 20 ans, mais humblement, je me dis que oui, c'est la relation à l'autre qui permet de faire de l'inclusion quelque chose de plus efficient. Quand on fait confiance, je prêche un peu pour ma paroisse, quand on fait confiance à l'enseignant, c'est bien. Éviter que les parents aient ce sentiment un peu de défiance à notre égard. C'est vrai, et en même temps, parfois, c'est à juste titre. On ne sait pas toujours faire, on n'est pas toujours dans les bonnes... on n'est pas toujours... on ne fait pas toujours ce qu'il faut, hein, il faut reconnaître. Mais si le parent se sent en confiance avec nous, je pense que là, on est vraiment dans une démarche d'inclusion. J'aime à dire que si on a un bon relationnel avec les parents, On travaille de concert, on travaille ensemble.
Ensemble.
Et c'est comme ça qu'on va réussir.
Bien
parce
sûr.
Que, oui, et puis nous aussi, on s'appelle Éducation nationale. Donc, dans Éducation nationale, il y a éducation, accessoirement. Et c'est vrai qu'on fait, on accompagne aussi On les accompagne aussi, ces jeunes. Mais on ne peut pas faire tout le job non plus. Donc, on a besoin de travailler en synergie avec les parents. Sans tomber dans la démagogie non plus. Parce que ça, souvent, je le dis, ne pas confondre bienveillance et démagogie. J'aime bien le répéter. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et la démagogie fait vraiment du tort. Tandis que la bienveillance, ça ne veut pas dire... c'est pas le monde de oui-oui. Hein. Parfois, on peut s'accrocher parfois. Mais ce qui compte, c'est de se dire les choses et de communiquer et d'être vrai, tout simplement. Et quand ça ne va pas, on se le... J'ai des exemples encore hier où j'ai appelé une maman. J'étais un petit peu en difficulté avec ces deux enfants. Et moi, quand je suis en difficulté, je demande de l'aide. Donc on a besoin de se rendre service les uns les autres et de travailler ensemble.
Le concert, voilà. Très bien, ok.
Je ne sais pas si j'ai...
Ah non, mais même, franchement, tu as très très bien répondu à ma question. Après, j'avais envie de te demander, est-ce que tu penses que le milieu scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, est prêt à accueillir des enfants en situation de handicap?
Alors j'ai envie de te dire, c'est un sujet houleux, parce qu'effectivement, l'éducation nationale, c'est quelque chose, c'est une institution, et puis aujourd'hui... Voilà, on manque terriblement d'argent pour mettre en place tout ça, parce qu'on a quand même pas mal de bonne volonté. On est quand même pas mal d'enseignants. On est volontaire, on a envie de faire au mieux. Mais en même temps, quand on n'a pas toujours les deniers pour faire le nécessaire, c'est compliqué. Donc effectivement, oui, les enseignants sont des personnes qui sont engagées et qui sont dans cette dynamique d'inclusion et d'accueil. Simplement... dans le système éducation nationale, on va être honnête, il y a des difficultés, puis il manque cruellement d'argent et de mise en place de systèmes qui font qu'on peut accueillir du mieux que l'on peut ces jeunes. Donc c'est difficile, la motivation est là, les gens sont motivés, les gens ont envie de faire, après le système est un petit peu compliqué.
D'accord,
donc,
c'est juste le système, la barrière en fait, un peu.
Je dirais ça, après ça n'engage que moi quand je dis
voilà,
ça.
Voilà, c'est tout à fait personnel, d'accord, voilà. Ok, très bien. Bon, moi je vais arrêter de t'embêter un peu avec l'éducation nationale parce que doit-on selon toi proposer aux enseignants des formations, justement, pour mieux intégrer dans leur classe des personnes qui en ont besoin parce qu'ils ont des difficultés particulières.
Effectivement, ça revient sur ce que je disais. Il manque cruellement d'argent, malheureusement. Et effectivement, on a tous besoin. Et puis, on en demande. Hein, on a tous envie d'avoir des formations. Et ces formations ne viennent jamais. Donc, on se forme tout seul, on est des autodidactes.
D'accord, des autodidactes, ouais, comme toi.
Voilà. On essaie de faire au mieux. Je pense à mes collègues aussi qui... Moi, en SECPA, nous avons généralement 16, maximum 17 élèves en classe.
Oui.
Bon, ils sont pas mal, hein, ils comptent souvent pour deux, donc... Non, mais blague à part, oui, mes collègues, ils peuvent avoir jusqu'à 30, 31 élèves en classe, donc c'est très compliqué de mettre en place de l'adaptation. On a envie, mais parfois on ne peut pas toujours. C'est pas même dans une classe, concrètement, il n'y a pas toujours de la place non plus. Donc c'est compliqué. Il y a la volonté, il y a le souhait, mais on se forme énormément seul. Il y a finalement, j'ai envie de dire, malheureusement, il n'y a que ça.
Ouais.
Et... que des bonnes volontés.
Voilà, sur ceux la qui bonne ont volonté. Vraiment envie de...
Il y en a pléthore des collègues qui ont vraiment envie. Ouais, après, c'est vrai qu'on ne le crie pas sur tous les toits, mais on est nombreux à être engagés pour le bien-être et pour la réussite de nos élèves. Parce que c'est ça l'arrivée qu'on souhaite faire, c'est qu'ils soient en situation de réussite.
Voilà, tous, en fait. Tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Ouais, bon, c'est très, très beau. j'ai envie de dire, et toi personnellement, mais vraiment personnellement, qu'est-ce que justement tu changerais pour pallier justement à ces...
Les manques.
Oui.
Fouf. On a combien de temps là?
Moi, je te demande pas une dissertation.
Je pense que ce qui est important, c'est en tant qu'enseignant et en tant qu'être à part entière, on a besoin d'être des libres penseurs aussi. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on... On nous dit souvent ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire. On a un peu d'expérience, donc on apprend avec le temps. Et c'est vrai que je me dis qu'au bout de 20 ans, par exemple, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est de me dire, d'avoir parfois les supérieurs hiérarchiques qui te disent « Ah, mais il faut ci, il faut ça, il faut... » À un moment donné, si on est investi et qu'on est engagé, on lit, on bouquine, on apprend, on déploie nos ailes et on n'a pas nécessairement besoin
qu'on nous dise... Qui vous laisse un peu plus de marge de manœuvre.
Voilà, un peu plus de marge de manœuvre.
Et qui vous fasse confiance, finalement.
Et qu'on ne nous infantilise pas toujours, oui. C'est pas utile. Hein, après, c'est peut-être un peu présomptueux de parler comme ça, mais en tout cas, moi, je me positionne, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, au bout de 20 ans d'expérience d'échecs, hein, parce que parfois, on fait des choses et ça ne va pas, mais on est en capacité de revenir sur ce qu'on a fait et de dire, voilà, bon, mais j'ai fait comme ça, ça n'a pas marché, mais tiens, je vais faire autrement.
Ouais.
Et nos élèves, justement, ce sont nos... Il nous guide aussi.
Bien entendu.
Quand on se loupe, il ne nous loupe pas.
Alors, je voulais spécialement te remercier, Christelle, déjà d'avoir accepté mon invitation.
Avec joie, avec joie.
D'être venue jusqu'au studio de Radio Alliance Plus. Alors, je voulais aussi en profiter d'être à la radio pour vous parler un peu donc, du recueil de Christelle. S'intitule Articulation.
Articulation, en fait, verbalisation
voilà.
De la matière.
Voilà. En fait, justement, elle est ici, elle va vous en parler un petit peu. Je voulais faire cette parenthèse parce que, justement, pour moi, Christelle est une magnifique personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a un peu plus d'un an maintenant, même, oui, plus que ça. Et en fait, je pense qu'elle a mérite à être connue et pour sa passion et pour surtout qui elle est au départ, puisqu'elle se définit comme une artiste, peintre et auteur. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous en parle et qu'elle puisse échanger avec vous sur ça, sur sa passion. Voilà, je te laisse parler.
Merci Stéphanie. Déjà, je voulais te renvoyer le compliment. Lorsqu'on s'est rencontrés, on peut dire que toutes les deux, on a eu un coup de cœur amical.
C'est vrai.
Et j'ai toujours beaucoup d'émotions à en parler. Voilà, moi, je t'admire. Tu es une personne que j'admire, qui m'a véritablement revitalisée. On en a besoin. On a besoin d'avoir autour de nous des personnes comme ça, ressources, pleines d'enthousiasme. Et tu fais partie de ces personnes. Voilà,
c'est gentil. Je voulais te dire. Merci, je suis très touchée, Christelle.
Et tu fais le même effet à mes élèves. Et c'est pour cette raison voilà, que je suis ravie que tu, à la perspective que tu reviennes. Et tu vas revenir à chaque année. Hein.
Oui, j'y compte bien. Ça, vraiment, ça fait partie de mes projets.
Voilà, donc pour parler brièvement, c'est toujours difficile de parler de soi, de parler de son travail.
C'est sûr, mais
je préfère parler des autres.
Oui.
Là, en l'occurrence, donc, mon recueil s'intitule « Articulation, verbalisation de la matière ». Pourquoi ? Parce que je suis artiste peintre depuis très longtemps. Et je travaille principalement la matière et la couleur, la conjugaison entre la matière et la couleur. Ça me passionne. Et pourquoi j'ai intitulé ça articulation, précisément pour permettre aux auditeurs, parce que les textes étaient lus, aux auditeurs d'entendre des textes et de voir la matière et de la percevoir. Ce recueil existe aujourd'hui parce qu'en fait c'était une exposition que j'avais faite qui s'appelait « Parce que l'écrit dure » avec le fameux jeu de mots. Et cette expo, j'avais écrit des textes qui accompagnaient, qui avaient émergé en fait en même temps que les œuvres. Et je les avais écrits très très grands sur les murs et pour que les personnes puissent en profiter au même titre qu'un tableau. Et les personnes qui avaient visité l'expo m'avaient dit « Mais c'est sympa, pourquoi tu n'en fais pas un recueil ?»«
Un recueil ? » ?»«
Ah bon, mais comment ça ?» Donc au départ, j'étais un petit peu sceptique. Et finalement, plein de synergie et puis la conjugaison de pleine synchronicité qui ont fait que ça a pu se faire. Et il y a un an, donc, ce recueil a été édité. Et donc, il est l'émergence de ma créativité en termes d'écriture et de peinture. Et c'est difficile pour moi d'en parler.
Oui, je vois ça. Mais c'est pour ça que je
il faut le lire, en voilà, fait, voilà, tout simplement.
Je vous invite à aller vous y plonger, voilà. Et puis, à la limite, peut-être, je ne sais pas, laisser les coordonnées de Christelle.
Voilà.
Que voilà, les... Tu peux donner ton Instagram.
Oui. Alors, sur Insta, je suis à mon nom et prénom, Christelle Fiol. Sur YouTube aussi, vous pouvez voir quelques vidéos qui parlent de mon cheminement artistique. Donc, vous tapez Christelle Fiol, artiste, et vous tombez sur
voilà.
Les vidéos YouTube.
Super.
C'est pas compliqué.
Bon. Mais en tout cas, moi, je suis très, très honorée que tu sois venue aujourd'hui à la radio. Je te le redis.
Merci,
et
Stéphanie,
encore.
Merci à toi.
Ça me fait très, très chaud au cœur. Je garde un merveilleux souvenir des interventions que j'ai eues, du retour aussi bien des enseignants, c'est vrai, que j'ai trouvé très investi. Et alors, les jeunes, à chaque fois, moi, ils me font chaud au cœur.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai l'impression, en effet, de leur apporter quelque chose.
Oui.
Mais eux aussi,
ils
m'apportent.
Oui.
C'est-à-dire que je me sens utile. J'ai l'impression de leur apporter quelque chose. Et il y a vraiment un échange, parce que ce qu'on disait, un échange, un partage, ce que tu disais au
Exactement.
Début, un retour. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond des tripes.
Voilà,
j'ai envie de dire, c'est vraiment ça qui me porte au quotidien.
Exactement.
Voilà, donc c'est vrai que j'ai envie que ça se répande.
On va faire en sorte que ça se répande.
Voilà, que ça se
précisément,
répande.
Justement, donc, au sein du collège, déjà, avec les élèves du général. Le répandre,
voilà.
Répandre ouais. et puis d'en parler aussi autour de nous.
C'est ça.
Pour que les autres collèges puissent t'inviter aussi.
Bien entendu, voilà. Mais écoutez, moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous retrouver le mois prochain. Avec un nouveau sujet à aborder autour du handicap dans la société. Merci encore Christelle de m'avoir accordé ce temps.
Merci à toi.
Voilà, c'est encore un petit pas pour moi et un grand pas pour les Achilles sans talons. Je voudrais vous quitter en musique avec un morceau que Christelle a choisi. Ce morceau s'intitule Is This World Where Mine de Marvin Gaye. Voilà, merci infiniment, à bientôt.
If this world were mine, if this world were mine, if this world were mine, I'd give you anything, I'd give you the flowers, the birds and the bees, that would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything, I'd give you the flowers, the birds and the bees, that would be all I need. If this world were I'd give you the flowers.